Allez, voici le journal de géopolitique européenne. Maintenant, il est 5h12 et c'est votre heure, José Manuel Lamarque. Bonjour.
Bonjour Mathilde Munoz.
Au programme ce matin, le traité d'Aix-la-Chapelle. Est-ce qu'on se dirige vers un rééquilibrage franco-allemand de l'Europe?
C'est toute la question, Mathilde, surtout à l'heure du Brexit. Rééquilibrage franco-allemand, un levier face aux élections européennes qui inquiètent ou encore la marge qui va éclairer la page de l'Europe sous un jour nouveau? Tout cela, nous allons le voir avec notre invité Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, le traité d'Aix-la-Chapelle, malgré les rumeurs et les fausses nouvelles, vient-il remplacer ou compléter le traité de l'Élysée de 1963?
Oui, alors évidemment, il ne vient pas, contrairement à beaucoup de fausses rumeurs, remplacer le traité, mais bien le compléter. Ce traité a pour ambition de remettre concrètement, à travers 28 articles qui ont été co-signés par la chancelière allemande et le président français, étayés par des travaux en amont au niveau parlementaire, puisque va être créée une assemblée franco-allemande qui va regrouper 50 députés français et 50 députés du Bundestag.
Ça, c'est surtout le travail de Sabine Thillet, qui est la présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée.
Donc ça, c'est complémentaire au traité.
Ça, c'est un complémentaire.
Mais le traité concerne, et c'est ce que je voulais dire, à la fois la coopération bilatérale au sens propre du terme diplomatique et toute une série d'autres sujets, notamment un approfondissement sur la coopération transfrontalière. C'est d'ailleurs un des justificatifs de ce traité.
Mais elle existait déjà avant un peu, la coopération transfrontalière.
Elle existait de fait. Déjà, elle existait depuis le traité de l'Élysée de 1963. Avec un certain nombre de dispositions qui manquaient.
Et ce qui est intéressant dans ce traité, c'est aussi une porte ouverte à d'autres États membres. Ce n'est pas seulement que franco-allemand.
Alors, symboliquement, contrairement de nouveau en 1963, où ce traité concernait deux pays membres de la Commission économique européenne, la France et l'Allemagne ont voulu inviter évidemment leurs partenaires européens, notamment la présidence roumaine, puisque depuis le 1er janvier, la Roumanie préside l'Union européenne, avec là aussi une volonté d'étendre ce qui a été décidé à deux, au niveau de la défense, au niveau de la coopération économique, prospective, structurelle, sur l'investissement en matière d'intelligence artificielle.
Et surtout, attention, l'énergie.
La position unitaire que doivent avoir les 27 ou 28 pays vis-à-vis de l'indépendance énergétique. Donc il y a toute une série de sujets qui vont être amplifiés au-delà de la coopération bilatérale. Mais le plus intéressant, c'est évidemment la défense ou la politique étrangère, partant du principe de dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion. Et cette impulsion pourra être ensuite l'objet d'élargissement. C'est ce qu'on appelle le principe de la coopération structurée permanente. Les pays qui le veulent et qui le peuvent s'associent, et ceux qui, pour l'instant, ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas, prendront le train en marche,
oui,
si j'ose dire.
La coopération structurée, c'est toujours dans le domaine militaire. Là, on repart vers l'embryon de l'Europe de la défense. On va peut-être rebattre les cartes. Deux points, Emmanuel Dupuis, concernant ce traité. Est-ce que c'est pas un rééquilibrage par rapport au Brexit? Et puis, deuxième point, n'est-ce pas l'acte final de la carrière d'Angela Merkel?
Angela Merkel, justement, a donné l'impression qu'elle passait la main, notamment parce qu'elle ne sera vraisemblablement plus chancelière pour un cinquième mandat.
Elle a plus envie, c'est fini.
Elle a plus envie. Et puis, je crois très sincèrement que les Allemands, surtout, n'ont plus envie.
Rééquilibrage par rapport au Brexit.
Rééquilibrage par rapport au Brexit, repositionnement par rapport à des lignes de fracture qui sont en train de grossir au niveau de l'Union européenne. Je prends l'exemple italien. Les critiques qui sont focalisées sur la France, et donc cette ligne de fracture qui sera, me semble-t-il, au cœur des réflexions électorales d'ici les élections du 26 mai prochain, ont démontré, et je crois que le traité d'Aix-la-Chapelle signé il y a quelques jours, ont bien montré qu'il y avait un hiatus qui était en train de se créer entre deux visions européennes. Une vision de l'Europe qui s'appuie sur les traités, qui veut essayer d'avoir une démarche, je dirais, plus homogène ou en s'appuyant sur une cohésion historique sur ce qu'a été la construction de l'Union européenne, d'où cette gestation historique de 1963, 56 ans plus tard, étayée par ce nouveau traité. Et puis de l'autre, une Europe qui, d'une certaine manière, trouve sa cohérence géographique autour de ce qu'on appelle le triangle de Weimar, avec un certain nombre de pays qui appartiennent à un groupe, donc le groupe des pays dits de Visegrad, et qui, d'une certaine manière, interroge l'Union européenne sur ses fondamentaux, sur sa politique migratoire, sur le principe de sa souveraineté ou de sa relation avec son voisinage, en l'occurrence la Russie.
Et n'oublions pas, Mathilde, que Aix-la-Chapelle, c'est aussi la ville de Charlemagne, peut-être le premier père de l'Europe.
Merci beaucoup, José-Manuel Lamarque, pour ce journal de géopolitique européenne, journal que l'on retrouve tous les vendredis dans le 5-7 de France Inter.